Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. C'est toujours avec un peu d'émotion que je le reçois, c'est toujours avec un peu d'émotion que je le retrouve et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je lis ses livres. Il fait partie de notre patrimoine littéraire depuis de nombreuses années. Il sait toujours nous régaler avec ses textes, ses mots et puis cette belle voix bien posée et bien grave. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps parce que si moi j'ai le plaisir de le retrouver, nul doute que ce soit la même chose pour vous. Bonjour Yann Kefelec.
Bonjour Claudine Bugat.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour ces deux ailes. Délivrez-vous pour votre dernier roman « D'où vient l'amour » aux éditions Calman Lévy. Alors voilà, c'est un roman qui se passe dans le Gard. Il y a des héros, il y a des personnages attachants et notamment Samuel Poujol qui est un jeune homme de 22 ans et qui travaille dans l'entreprise de son père, et ils sont fabricants de sous-vêtements de luxe. Et puis il y a Maud, sa compagne, qui attend un enfant. Et tout au long du roman, ça va être se poser la question, savoir si on est content, en fait, quel est le sens de la vie, et puis d'où vient l'amour, pourquoi on aime telle chose, pourquoi telle chose arrive. Mais c'est vraiment une question existentielle que vous posez. D'où vient l'amour et pourquoi on aime quelqu'un et pas quelqu'un d'autre? En fait, c'est ça aussi le sujet.
Alors, le sujet, je pense qu'il est multiple.
Oui.
D'où vient l'amour, effectivement, est une question qui englobe l'ensemble du livre.
Oui.
C'est une question et c'est pas une question. C'est également une affirmation, c'est une exclamation. Ce sont des points de suspension.
Oui.
C'est au lecteur aussi, lui-même, d'ailleurs,
de
se demander comment il s'approprie ces mots, quel sens ces mots ont pour lui. En tout cas, c'est aucun doute. Ce sont des mots qui ont un sens dans le parcours existentiel de chacun. Il est impossible de vivre sur Terre sans avoir affaire à l'amour d'une manière ou d'une autre, pour le meilleur et pour le pire. C'est le cas de ce livre, mais est-ce que à un moment donné, par exemple, le titre... Vous voyez, ma belle voix grave est posée légèrement enrhumée. Le titre ne s'élève pas au-dessus des personnages et n'intéresse pas tout l'univers. Est-ce que la Terre elle-même, d'ailleurs, n'est pas une forme d'expression amoureuse dont de c'est quoi dans cette capacité qu'elle a à se renouveler, se réinventer à travers les saisons, se vouloir presque éternel. Enfin, la puissance des éléments est une sorte aussi d'expression de l'amour, comme ça, dont nous sommes d'une certaine manière les retombées.
Mmh. Alors c'est vrai que les personnages, on pourrait les faire passer, alors entre guillemets, bien évidemment, c'est plutôt pour moi une forme un petit peu romanesque de voir la chose, comme des petits satellites qui essayent de faire leur vie, de se prémunir d'un tas de choses et puis d'avancer malgré les circonstances. Alors il faut dire aux auditrices, auditeurs que nous sommes dans les années 40 et que bien évidemment rien n'est simple. Et puis que Samuel aussi veut s'identifier à ce père qui se bat contre l'ombre, contre l'adversité, qui est l'ami des Juifs. Et donc il va vouloir entrer dans les pas de son père. Donc est-ce que Maud, c'est la bonne route? Maud, elle espère aussi que son enfant sera content. Est-ce que Samuel serait content? Tout en nos livres ici, vous nous forcez aussi à nous poser les questions. Est-ce que les choix que nous faisons, cela nous contente-t-il, ou est-ce que les autres à côté de nous sont heureux aussi?
Alors tout pour moi ne part pas du personnage de Samuel, qui évidemment est un rôle déterminant, mais part du personnage de Maud,
qui, elle,
avant de savoir d'où vient l'amour, elle veut l'amour. Elle n'a pas grand-chose dans l'existence, sinon une espèce de paradis que représentent les hauteurs des Cévennes, là, sous le cratère d'un volcan éteint, dans son petit village non cadastré, où elle vit avec ses parents au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est ce qui est le paradis pour les autres et l'horreur pour elle, parce qu'elle s'ennuie entre ses parents. Le soir, elle lit les romans feuilletons que lit sa mère, et elle se dit qu'elle aussi un jour rencontrera le prince charmant comme on le trouve dans les romans feuilletons.
C'est ça.
Et ce prince charmant va venir jusqu'à ce village des fabriques où personne ne va. C'est Samuel qui vient à la fois comme un beau jeune homme, comme ça, irrésistible, pour une jeune fille élevée de manière solitaire, irrésistible, mais en même temps, lui, il vient pour demander à ses parents si par hasard ils voudraient bien héberger des juifs
Oui.
comme ça qu'il doit faire passer au Chambon-sur-Lignon. Et Monde, à ce moment-là, a le sentiment que l'amour est venu jusqu'à elle, le
Oui.
regard qu'elle échange avec Samuel est un regard qui va les engager pour le meilleur et pour le
Pour le
pire,
pire.
alors que lui n'en sait rien encore, c'est juste un beau garçon un peu séducteur qui fait le coq au milieu des ouvrières dans la vallée en contrebas
Oui.
et pour qui Monde est une sorte de nouvelle proie facile. Mais
Oui.
il va déchanter, il va s'apercevoir que les femmes, c'est pas qu'elles ont plus d'un tour dans leur sac, mais elles sont plus fines et elles ont plus d'ambition quelquefois
C'est
que les
vrai.
amoureux d'un instant.
D'ailleurs, on pourrait dire que sa pensée à lui est assez fugace, est assez comment dirais-je pas éphémère, mais un peu légère. Elle, c'est plus en profondeur. C'est-à-dire, elle attend vraiment quelque chose. Lui, finalement, c'est un peu aussi dans les pas de son père. Il admire son père, mais elle, c'est vraiment se réaliser aussi par elle-même. Et puis, bah, cet enfant qu'elle va découvrir qu'elle attend.
Oui, mais pas tout de suite,
Pas
pas
tout de
tout de
suite,
suite.
pas tout de suite,
En fait, c'est une relation moins légère qu'il ne le croit.
Oui.
Pour lui, c'est une. Voilà,
Mais
effectivement,
pour elle, c'est
il va se faire.
important. Pour elle, c'est
Ah,
important.
mais pour elle, c'est sa vie, c'est son destin qu'il a comme ça qu'elle vient de croiser. Elle va suivre son destin quand il lui donne du travail dans la vallée.
Dans la vallée,
Et
oui.
même si ses parents refusaient de la laisser partir, elle irait quand même. Alors, pour lui, lorsqu'il l'embrasse pour la première fois dans cette petite ville du Vigan, dans l'attraction familiale, donc pour lui, c'est un premier baiser. Il pense qu'il va lui faire un grand plaisir et que voilà, lui-même, il va se faire plaisir
Voilà.
pendant un moment qu'il va la laisser tomber. Mais il est en train d'embrasser Maud pour la première fois quand de l'épaule de Maud monte une odeur qu'il n'a pas respirée depuis que sa mère est partie 15 ans plus tôt. Elle est décédée 15 ans plus
Oui.
tôt. Et là, Samuel va s'apercevoir qu'il est en réalité un personnage grave et que d'où vient l'amour? Eh bien, ça peut venir de l'épaule d'une jeune fille
Oui.
embrassée pour la première fois lorsqu'on respire dans cette épaule l'odeur de sa propre mère.
C'est vrai. Et c'est vrai que d'où vient l'amour? Eh bien, comme vous dites, ça peut être une odeur, un geste, un regard, un morceau de tissu, une lumière qui tombe sur un visage. Ça peut
Bien
venir
sûr.
de n'importe où, de n'importe où.
Et à
Alors,
n'importe quel moment.
n'importe quel moment. Alors, votre livre a aussi une connotation un peu, enfin, je dirais, sérieuse et tragique, surtout parce que ben, c'est aussi le temps, le moment de notre histoire qui est assez grave, où les choses ne sont pas très simples. Donc leur histoire, forcément, ne sera pas simple au vu de la situation que les gens vivent à ce moment-là.
Alors, est-ce qu'on peut être amoureux lorsque le monde
Oui.
voilà, est plongé dans une espèce de chaos autour de vous?
C'est vrai.
Maud, elle ignorait que la guerre existait. Quand elle était là-haut dans son village, elle apercevait les lumières du Vigan dans la
Oui,
vallée.
oui.
Elle savait qu'il y avait des Allemands, mais elle ne savait pas à qui ressemblaient les Allemands. Elle ne connaissait pas le visage de la guerre. La guerre n'est jamais montée jusqu'à son village,
Et
là,
oui.
sous le cratère du volcan. Mais lorsqu'elle découvre la guerre en arrivant dans la vallée, il est bien clair pour elle que la guerre ne pourra rien contre ses sentiments pour Samuel et que quoi qu'il en coûte et quelles que soient les choses, elle l'aimera contre vents et marées. Alors ça, évidemment, c'est un peu le problème, c'est aussi un des problèmes de notre époque et j'y pensais en écrivant le livre. On est dans une période un peu chaotique, la
Oui.
nôtre, et moi-même, je me demande, mais comment font-ils tous ces jeunes pour tomber amoureux, pour investir comme ça dans une conception optimiste de l'avenir, ils y arrivent. On voit bien que les démographies ne sont absolument pas en perte de vitesse.
C'est vrai.
De la même manière, au monde, elle va avoir un enfant de Samuel, ce
Oui.
qui la terrifie dans un premier temps, mais ensuite elle va au contraire en tirer, voilà, une joie de femme et de mère.
Oui, tout à fait. Mais moi, je pense aussi que, quelle que soit l'époque, et finalement, on s'en aperçoit aussi au travers du livre et au travers de notre époque, que la vie est plus forte que tout, quelles
Oui,
que soient
c'est
les
exactement ça.
circonstances.
La vie est plus forte que tout. D'où vient l'amour? Et lorsque vient l'amour, eh bien l'amour, voilà, tout s'effondre. C'est pas que tout s'effondre autour de l'amour, mais l'amour ne connaît plus que sa propre direction, que sa propre volonté, et le reste finalement compte beaucoup moins.
Alors, Il y a une autre forme d'amour aussi, moi, que j'ai trouvé assez belle. C'est ce que fait le père de Samuel pour tous ces juifs dans cette période où c'est dangereux aussi pour lui. C'est une belle forme d'amour aussi. L'amour vient de là aussi, de l'aide aux autres, de l'empathie pour les autres aussi.
Moi, j'ai découvert en écrivant le livre, effectivement, que j'écrivais sur un paysage,
Oui.
sur une époque et sur un milieu qui était le milieu protestant.
Oui.
Et j'ai découvert cette page complètement, enfin, mal connue, enfin, en tout cas de moi et je pense du grand public, cette page de l'histoire de France, c'est celle de tous ces protestants comme ça du Haut-Gard
Oui.
qui n'hésitent pas comme ça à porter secours aux Juifs en toute discrétion, en toute simplicité,
Bien sûr.
et qui ne veulent absolument pas, lorsque les hostilités cessent, être reconnus pour des justes. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ne veulent aucune médaille, aucune publicité autour de cet héroïsme qui est pour eux un héroïsme ordinaire. Et ça m'a passionné. Donc le père de Samuel, il se fait passer pour un collabro. Tout le monde pense que
Oui,
c'est un
tout à
collabro comme
fait.
ça qui marche. Et en réalité, c'est un résistant parfaitement secret, parfaitement désintéressé, qui ne vise qu'une chose, c'est à protéger les
Oui.
autres, sa famille, ses amis, et ses amis inconnus, que sont ces juifs, comme ça, en détresse, dans une situation injuste.
Est-ce que, alors je me suis posé la question en lisant le livre, est-ce qu'on aurait pu, comment dirais-je, transbahuter Maud de Samuel et son père dans notre époque avec d'autres données, mais les mêmes sentiments avec le père de Samuel qui peut sauver d'autres gens? Est-ce que ça peut rester universel, ce genre de sentiments et d'actions?
Ça, c'est pas à moi de répondre si ce livre est universel ou non, mais je vais quand
Dans
même vous
l'action,
donner
en tout cas.
mon point de vue sur la chose. Ce que j'ai ressenti en éprouvant le livre, c'est la difficulté du choix. De quel côté peut-on se situer? Arrive-t-on à se situer? Comment se positionne-t-on par rapport à l'idée qu'on se fait du bien et du mal? À quel moment on est lâche? À quel moment on est courageux? À quel moment on s'arrange avec sa bonne conscience. Ben, tout cela est absolument passionnant et nous amène à juger peut-être différemment cette page de l'histoire qui était la Seconde Guerre mondiale. Donc, je vois bien, moi, aujourd'hui, on ne sait pas si les choses dégénéraient comme quelquefois on a l'impression qu'elles peuvent le faire. Comment ferait-on? Mais on a des familles, on a des
Bien
enfants.
sûr.
Voilà, on a envie de préserver l'avenir des gens qu'on aime. Jusqu'où irait-on comme ça dans une éventuelle lâcheté ou refus comme ça de s'engager? Je suis incapable
Bien
de
sûr.
répondre. Et je pense que ça a dû être effectivement des cas de conscience absolument effrayants à l'époque du Second Conflit mondial.
Et justement, chaque personnage est décrit avec minutie, je trouve, avec beaucoup de justesse et d'humanité. Et chacun se pose la question par rapport à la vie, par rapport à l'existence aussi et à l'avenir de manière différente. Maud, par la suite, va avoir une vie à préserver. Et puis, cet amour aussi à qui elle tient plus que tout, face aussi à des parents qui voulaient la surprotéger, mais coûte que coûte, elle voulait vivre et vivre sa vie comme elle l'entendait. En 40, avec une jeune femme qui va devenir, avec cet enfant normalement mère célibataire, mais enfin on n'en dira pas trop. Comment vous avez dépeint, comment vous avez créé ces personnages au plus juste?
Mais je me suis laissé faire par les personnages.
Ouais.
J'avais trouvé des personnages. C'est pas évident de trouver des personnages.
C'est
Quelquefois,
vrai.
on a du mal à les trouver. Je sais pas, j'ai eu le sentiment qu'ils venaient à moi et qu'ils venaient à moi avec leurs contradictions, avec leurs facettes, avec une nature humaine qui est toujours assez bouleversante parce qu'elle n'est pas tout d'une pièce, elle n'est pas tout d'un bloc et d'une seconde à l'autre. Voilà, elle se surprend elle-même, quoi. Quelqu'un dont on n'attend rien peut se présenter. Peut devenir quelqu'un de bien qui se croit destiné uniquement à bien faire, peut avoir des faiblesses. Donc
Bien sûr.
j'ai été agréablement surpris par les contradictions spontanées de tous ces personnages sur lesquels je n'avais qu'une vague idée lorsqu'ils ont commencé comme ça à exister dans mon histoire. Ça tient peut-être aussi au fait que l'histoire avait du sens. Moi, je voulais écrire un vrai roman, c'est-à-dire une histoire dont on a envie de tourner les pages, on a envie de connaître la suite. Et le fait d'être dans cette dans cette attente moi-même de quelque chose de surprenant, ça a rendu ces personnages naturels, vrais
C'est authentique.
Sincères,
Oui.
authentiques,
Authentique.
j'espère, en
Oui.
tout cas.
Eh bien, j'espère que ce qui va être authentique, c'est la petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
L'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, l'amour. C'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, l'amour, à l'amour dont on parle toujours. L'amour, mais la nuit un bonnet. Et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est parfois même aussi le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. À l'amour, à l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, à l'amour, c'est quand je t'aime. À l'amour, c'est quand tu m'aimes. Sans me le dire, sans te le dire. À l'amour, l'amour, c'est quand tu m'aimes. L'amour, c'est quand je t'aime. Sans te le dire, sans me le dire.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Yann Kefelek pour son dernier roman « D'où vient l'amour » aux éditions Kalman Levy. Alors, je suppose que le choix de la période, est-ce que le choix de la période s'est imposé à vous en fonction des personnages ou c'était le moment de cette période où on se pose la question, parce que c'est une période un peu trouble comme ça, comme vous disiez, est-ce qu'on peut continuer à aimer, est-ce qu'on peut continuer à aimer la vie, les gens. Vous avez choisi cette période sciemment ou comme les personnages, elle s'est imposée à vous au vu des personnages?
Alors, j'imagine que c'est toute une alchimie comme ça, dont je n'ai pas forcément toutes les clés.
Oui.
Il y a ce qui se passe autour de nous, il y a cette guerre comme ça, étrange, parce qu'à la fois on est impliqué dedans et pas du tout là, en Ukraine.
Tout à fait.
Et puis en même temps, moi je suis à l'âge que j'ai, je m'aperçois que je suis un enfant de l'après-Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Et que cet après-Seconde Guerre mondiale a été un fantasme pour moi, dans ma famille. Tout le monde parlait des Allemands sans trop en parler non plus. Il y avait des choses qu'on disait, des choses qu'on taisait. Il y avait à la fois du dit et du non-dit sur la guerre. Mais en tout cas, c'était une hantise de chaque instant. Et cette hantise a fini par prendre une énorme place dans mon mémoire, dans ma mémoire, dans mon souvenir.
Mm-hmm.
Alors, je ne suis pas allé vers ce roman avec une idée préconçue, mais je me suis aperçu que j'étais envahi par une espèce d'atmosphère qui combinait à la fois les événements actuels et puis ces événements d'autrefois, comme ça, qui tapissaient mon inconscient.
Mm-hmm.
Et là, des personnages ont commencé à se pas vraiment des ombres de personnages ont commencé à se dessiner, des éventualités de personnages. Puis dans ces cas-là, c'est bien. Il y en a toujours un qui prend la parole en premier, qui vous chuchote quelque chose à l'oreille. Et à partir du moment où vous avez la chance d'entendre une petite voix qui vous dit une petite phrase, eh bien vous vous y accrochez et le livre peut commencer à vivre.
Alors Samuel, moi je l'ai trouvé terriblement moderne. Ça pourrait être un jeune d'aujourd'hui, ça pourrait être un jeune homme d'aujourd'hui, ambitieux, fonceur, qui veut tout, à qui finalement les choses sont assez faciles, beau gosse, à qui on ne résiste pas, l'exemple d'un père qui a réussi. C'est peut-être un jeune homme d'aujourd'hui.
Mais je crois que les jeunes gens sont à la fois d'aujourd'hui et que les jeunes gens sont toujours les mêmes. Ils sont plus ou moins des fils de famille. Ils sont plus ou moins pauvres, plus ou moins riches, et puis ils essayent de tracer leur route, comme ça, dans le monde familial où ils sont nés. Samuel, au début, effectivement, c'est un enfant gâté, tout simplement. Il a vraiment été gâté par la vie. C'est vrai qu'il est beau, il a la direction commerciale d'une fabrique de sous-vêtements, alors qu'il n'a pas fichu une rame au cours de ses études. Toutes les petites ouvrières se disent qu'elles vont venir la femme du fils du patron, donc il se serre là-dedans comme un coq dans un poulailler, et la vie est belle pour lui, hein. Franchement, il ne s'inquiète de rien. Tout de même, il est mal à l'aise parce qu'il se rend compte que son père ne le prend pas au sérieux, il se demande si un jour, comme ça, il arrivera à susciter, à attirer sur lui l'estime de son père. Et le jour où il rencontre Maud, dont il n'attend pas grand-chose, une fille de plus, eh bien, voilà, les choses vont tourner différemment pour lui, et cet homme qui est une espèce de vaurien sympathique va devenir une sorte de héros à son tour.
Moi, ce qui m'a un petit peu surpris aussi tout au long du roman, c'est que, on le disait, Maud, elle n'a pas tellement conscience de la guerre parce qu'elle en est assez loin au fond de la vallée. Les Allemands, elle sait, mais elle ne se rend pas bien compte. Est-ce que, sans que ce soit une forme d'inconscience, est-ce que finalement la guerre ne les atteint pas, ou en tout cas ils ne s'y intéressent pas vraiment, parce qu'en 40 c'était le début, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette forme d'inconscience ou d'insouciance qui est propre à la jeunesse aussi et qui est propre à toute génération?
Ah si, bien sûr, Samuel lui-même, qui est beaucoup plus impliqué dans les événements que Maud est dans cette inconscience. Je pense d'ailleurs que c'est propre en effet à toute cette jeunesse, et que c'est parce qu'elle est inconsciente qu'on en voit quelquefois dans des missions particulièrement difficiles, parce qu'elle ne se rend pas compte qu'on assume des missions au risque de se perdre. Ce qu'il va faire. Lui, il a envie de devenir un résistant. Il n'hésite pas comme ça à porter des messages, à prendre des risques, mais le jour où il est arrêté pour de bon par de vrais Allemands, comme ça, qui le passent à la question au pire sens du mot, à ce moment-là, il se rend compte qu'il ne se laisse pas dépasser par les événements. C'est là que Samuel est impressionnant, comme ça, de lucidité, à un moment où on ne s'y attend absolument pas de sa part. Oui. Mais c'est sûr que ce n'est encore qu'un petit garçon
qui a joué avec le feu. Ben, justement, c'est-à-dire qu'il a agi pensant bien faire, sans mesurer la... Mais est-ce que c'était pas difficile aussi de réaliser? C'est-à-dire, on fait les choses un peu mécaniquement, sans en connaître les conséquences, parce qu'en 40, finalement, c'était le balbutiement, on ne savait pas les horaires qui allaient nous attendre, et de faire les choses avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'humilité aussi, sans se rendre compte, parce qu'on ne savait pas comment les choses pouvaient aussi tourner. Donc c'est dans cet esprit-là aussi, sans doute, qu'il l'a fait aussi.
Et bien sûr, on agit spontanément, avec générosité, c'est pas véritablement un choix, c'est la nature humaine va dans telle ou telle direction, mais le cerveau n'a peut-être pas analysé tous les éléments comme ça des décisions qui sont prises par une personne. D'abord, Samuel, enfin justement, je voudrais pas non plus
dire tout ce qui se passe dans le bouquin, mais
il est sûr qu'il y a un moment où le Samuel qu'on a connu à telle page n'est plus celui que l'on retrouve à la page suivante, et ne le sera plus jamais.
Ne le sera plus jamais. Dans le titre d'Où vient l'amour, on s'aperçoit qu'effectivement, comme vous dites, les pages où le Samuel, c'était le Samuel ambitieux, un peu arrogant comme ça, finalement, il va changer. finalement, le fait d'aider les autres, de se débattre, de vouloir devenir un résistant, d'où vient l'amour aussi, ça va devenir aussi, un peu comme son père finalement, qui est l'ami des Juifs, va devenir aussi l'amour des autres. Il va se battre aussi pour ça, pour lui aussi, pour la vie, mais pour une autre forme de vie que ce qu'il connaissait auparavant.
Moi, j'ai l'impression, parce que Samuel reste un personnage mystérieux pour son auteur, et il est bon d'ailleurs que les personnages restent oui. des gens mystérieux pour les écrivains et qu'on ne oui. sache absolument pas tout ce qui se passe dans leur tête. Eux-mêmes d'ailleurs ne savent pas
Parfois
tout ce qui
le
se passe dans leur propre tête, fort heureusement. Mmh. Moi, j'ai l'impression que Samuel agit surtout en fonction de l'opinion de son père à son égard. Il veut absolument obtenir l'estime de son oui. père. Et donc il s'appuie aussi, il veut aussi peut-être un peu épater Maud, c'est possible
aussi, qu'il ait, peut-être,
voilà, il veut lui montrer qu'il est non seulement un bel homme, un homme beau, mais un bel homme, et qu'il est aussi quelqu'un de bien. Mais alors il y a un moment où moi-même je ne sais pas, est-ce qu'il va le rester justement cet homme bien, comment les choses vont, qu'est-ce qu'il va devenir, quel homme va-t-il devenir par la suite. Le livre ne le dit pas, et d'ailleurs c'est pas le rôle du bouquin de le dire,
oui.
mais non, en tout cas moi ça m'intéresse, parce qu'il a été profondément, évidemment extraordinairement marqué par des événements, oui. Là non plus, je ne vais pas tout dire.
Non, non, bah non, bah non, faut laisser justement.
C'est sûr que ça ne peut pas, c'est pas possible. Mais oui. en tout cas, il est certain que Maud l'admire, oui. l'aime, et que de ce point de vue-là, il a gagné l'estime de sa oui. femme, ce qui est presque aussi important que son amour.
Oui. Mais finalement, cette rencontre de ces deux personnages, je trouve que c'est une vraie chance. C'est une vraie chance pour l'un et l'autre. C'est-à-dire pour Maud de grandir. De voir la vie, d'ouvrir les yeux, et puis les événements par la suite vont de toute façon l'y amener, malgré elle finalement, et puis lui aussi de grandir, de regarder le monde avec un autre œil, que finalement tout n'est pas facile. Mais moi j'ai trouvé que leur rencontre c'était bénéfique pour l'un et pour l'autre.
Ah mais c'est ça l'amour, c'est qu'on a, oui. on a aucune chance de tomber amoureux. On n'a aucune chance de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. C'est en cela que le coup de foudre est miraculeux.
Oui.
Ils ont éprouvé un coup de foudre dont l'un était un peu artificiel, c'est-à-dire celui de Samuel, parce que Maud, c'est Aphrodite. Maud, quand il la voit comme ça dans sa montagne,
oui.
elle a été dessinée par le bon Dieu pour troubler le monde autour d'elle, pour troubler tous ceux qui l'approcheraient. Mais Samuel en a vu d'autres. Il sait très bien que ce trouble est fugace, éphémère. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Et Maud va lui faire changer d'avis. Et voilà, et la rencontre va être beaucoup plus forte et déterminante qu'il ne le sait. Quant à Maud, c'est ce qu'elle attend, mais elle aurait aussi bien pu ne jamais rencontrer Samuel. C'est sûr. Et elle a décidé de faire de Samuel une chance. Et elle va y parvenir, parce que même si Maud peut passer pour un peu simplette au début, parce qu'elle a trois mots dans son vocabulaire, parce qu'elle n'a pas vraiment fait d'études.
Parce qu'elle est du fond de la vallée, parce que voilà, oui.
Oui, voilà. Parce qu'elle c'est pas une fille de la ville, c'est une fille élevée de manière un peu soulageante.
Une fille simple, voilà, une fille simple.
Une fille simple, mais presque simplette d'ailleurs. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas le pouvoir des mots sur l'autre qu'on n'est pas intelligent, et quelquefois plus intelligent que ceux comme ça qui sont des beaux parleurs. Et elle va le prouver.
Oui, parce qu'elle a une forme de réflexion qui est finalement assez fine. Lui c'est plus du cartésien, c'est-à-dire il réfléchit à l'acte immédiat. Elle, c'est finalement, elle analyse, elle est plus fine, elle est beaucoup plus fine finalement.
Elle est intuitive,
oui,
elle est intuitive. C'est une femme, elle a des antennes.
Et oui,
elle suit ses antennes.
Forme de préscience aussi, comme beaucoup de femmes.
Tout à fait, elle est un peu visionnaire, un peu médium.
Peut-être, bon, oui. C'est sans doute un peu le propre des femmes. Est-ce que vous avez eu un peu de mal, enfin moi ça a été mon cas, mais je ne peux pas me fondre par rapport à votre pensée. Moi, j'ai eu du mal à les quitter quand j'ai refermé les livres. J'ai eu du mal à les quitter. Est-ce que pour vous, ça a été pareil, ou une fois que c'était fini, que le livre était refermé, eh bien, on les laisse, ou vous avez eu du mal à les laisser à leur histoire?
Non, vous avez raison. Merci de me dire que vous avez eu du mal à les quitter, ces personnages, parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à les quitter, mais je savais qu'elle devait être, absolument. la dernière phrase du livre. J'ai un peu construit ce roman en fonction de la dernière phrase du livre, qui est une phrase de transmission de la vie, comme ça, d'un grand-père à son petit-fils. Phrase par laquelle, eh bien, on enseigne à un enfant que, voilà, qu'il faut sauver la vie coûte que coûte dans sa forme la plus humble et la moins remarquable. Donc je ne vais pas dire évidemment la dernière phrase, mais elle me plaît. Mais
elle
il est sûr
belle.
Qu'après avoir, quand je vois périr ce grand-père, qui lui aussi est le grand-père du petit-fils, c'est le père de Maud, qui parle extrêmement peu, et chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour dire une phrase essentielle. Et on s'aperçoit qu'un homme, comme ça, en quatre ou cinq mots qu'il ne dit jamais, le jour où il les dit,
c'est très
eh bien,
important.
On en a des frissons, et ça, effectivement, ça peut contenir tout le sens de la vie.
C'est souvent l'apanage des
grands
taiseux.
Tout à fait, l'apanage des taiseux. Mais lui, oui, c'est ça, l'apanage des taiseux.
C'est vrai.
Et on s'aperçoit que ces taiseux, d'ailleurs, renferment énormément d'histoires qui sont là, mais qui ne sont jamais exprimées, sauf brusquement pointer l'extrémité de l'iceberg. Donc moi, j'ai eu du mal parce que j'ai laissé en vie comme ça des personnages et je sais qu'ensuite, j'en ai perdu certains en cours de route, dont sur mon grand-père, mais j'en ai laissé d'autres en vie, fort heureusement, et ils m'ont longtemps réveillé la nuit pour me dire alors, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait maintenant, où on va, et l'amour, alors où est-ce qu'on l'emmène. C'est vrai qu'un roman se... Lorsqu'il a du sens pour son auteur, lorsqu'il a de la vie, de la vitalité pour son auteur, eh bien, il continue à le porter et à attendre de lui le maximum longtemps après qu'on ait mis
c'est
le
vrai.
Dernier mot.
Mais moi, ils m'ont poursuivi un bon moment et de temps en temps encore, je pense à eux et c'est vrai que j'avais hâte d'en parler avec vous. Comme ça me permettait de nouveau de me rapprocher un peu plus d'eux après la fin du livre. Voilà. En tout cas, d'où vient l'amour? Eh bien, pour nous, à ces deux ailes, pour délivrer vous, l'amour et l'amitié, c'était de nouveau de vous recevoir, de vous remercier pour cette fidélité à l'émission.
Non, merci beaucoup. J'étais ravi de vous parler.
Voilà. Je vous rappelle donc le titre de votre livre, D'où vient l'amour, aux éditions Kalman Levy, avec Ken Kevelec. Merci infiniment. Et puis, je ne vous demande pas vos prochains projets. On vous retrouve quoi, dans un an, dans deux ans, pour un autre roman?
Dans un an et demi, on va
dans
dire.
Un an et
demi.
Vous avez déjà le projet en tête, je suis sûre.
Tout à fait.
Mais je ne poserai pas la question.
Entre le projet, entre la OSSA, exactement. De la coupe aux lèvres et dialogue.
Ok. Merci beaucoup, Yann Kefelec.
Merci
beaucoup.
Au revoir. Bonne
Merci.
Journée. Au revoir.
Quant à nous nous retrouvons pour une autre émission. J'espère que celle-là vous a plu et que vous avez retrouvé avec beaucoup d'émotion, Yann Kefelec. Merci. Bon dimanche et à très bientôt.